Chapitre 5. La maison de la cité. La Simone fut enterrée dans le plus proche cimetière, c'est-à-dire aux innocents. Comme de juste, elle fut jetée dans le coin des hérétiques et aucune croix ne surmontait l'endroit où elle reposait, vu qu'elle avait fait partie d'une troupe de baladins, bohèmes, faiseurs de tours, gens excommuniés de plein droit, mécréants et damnés. Lorsque le cercueil eut été mis en terre et que le fossoyeur commença à rejeter les premières pelletées, Belgodère saisit Violetta par la main et l'entraîna. La jeune fille le suivit sans résistance. Elle était mortellement triste. Sa main glacée tremblait dans celle du bohème. Il faisait nuit noire. La ville lui apparaissait comme une solitude affreuse. Elle marchait sans se rendre compte du trajet qu'elle accomplissait. Pourtant, au fond de son cœur rempli de ténèbres, rayonnait doucement une image consolatrice qui semblait l'escorter pour la protéger et lui murmurer qu'elle n'était pas seule au monde. Ce jeune seigneur au regard limpide, à la voix caressante, reviendrait-il ? Hélas, elle ignorait jusqu'à son nom. Mais il l'avait regardée avec une si fraternelle expression de pitié, elle l'avait vu si beau, si touchant, lorsqu'il était entré dans la roulotte, les bras chargés de fleurs, que son sein de vierge palpitait à ce souvenir et qu'à son deuil filial se mêlait un émoi inconscient et très pur. « Oui, il reviendra, puisqu'il l'a dit. Demain, demain, elle le reverra. » Et les presque dernières paroles de la Simone murmurent à son cœur une consolation. « Ce jeune homme, ce sera ton sauveur, car il t'aime. » Être aimée de lui, quel rêve! Tout à coup, elle s'aperçut que Belgodère ne se dirigeait ni vers la place de Grève, ni vers la rue de la Tissanderie où se trouvait l'auberge de l'Espérance. « Où me conduisez-vous » balbutia-t-elle, prise d'un nouvel effroi. Le bohémien, sans rien dire, serra plus fort la main de Violetta et marcha plus vite. Il passa entre la double rangée des maisons d'un pont et le fleuve franchi tourna à gauche. L'endroit était sinistre. C'étaient les noires et tortueuses ruelles des Ursins, d'Enfer et enfin du Cloître. C'était la cité. La cité, l'île du Palais, se terminait par deux promontoires. L'un à l'ouest, c'était le terre-plein sur lequel s'appuyaient alors les premières constructions d'un nouveau pont inachevé, où, 26 ans plus tard, devait s'élever le cheval de bronze portant la statue d'Henri IV et qui continue encore, nous ne savons pourquoi, à s'appeler le Pont Neuf. À l'est, c'était, derrière Notre-Dame et le palais archiépiscopal, une langue de terre sur laquelle se dressaient côte à côte deux constructions pareilles à deux sœurs se tenant par la main. Mais deux sœurs dont l'une était une mignonne créature et l'autre un monstre de hideur. La première, petite, accorte, plaisante, ses fenêtres ornées de jolis vitraux, portait au-dessus de son perron une enseigne pimpante, enguirlandée, sur laquelle on pouvait lire ces mots assez bizarres qui peut-être faisaient allusion à la cuve où l'on presse le raisin ou peut-être à quelque événement passé. Auberge du pressoir de fer, tenue par la Roussotte et Paquette. L'autre maison, très grande, avait une face muette, effrayante, des murs pourris, lépreux, lézardés, de rares fenêtres clignotantes. Elle paraissait prête à s'effondrer de vétusté, d'abandon, de ruine. Elle suintait la tristesse, elle suait l'épouvante, et son portail de fer, avec son énorme marteau de bronze, lui donnait une apparence de forteresse, une forteresse qui eût gardé des morts, des secrets monstrueux. Le promontoire a disparu, rongé par les eaux patientes. La maison terrible n'existe plus. À sa place, ou presque, émerge timidement aujourd'hui un bâtiment humble et bas au pied duquel la Seine se lamente, comme alors en clapotis d'effroi, et qui semble perpétuer l'horreur dans ce coin de Paris, la morgue. Belgodère, tenant toujours Violetta par la main, s'arrêta un instant devant l'auberge du pressoir de fer. Mais, secouant la tête, il marcha droit au formidable portail de la construction voisine. « Où sommes-nous ? » bégaya Violetta en jetant autour d'elle un regard éperdu. Belgodère ne répondit pas. Il heurta le lourd marteau de bronze. « J'ai peur ! Oh, j'ai peur !» La porte de fer s'ouvrit sans bruit. Violetta voulut se rejeter en arrière. Le bohémien la harponna solidement. Dans la seconde qui suivit, elle se vit dans un vaste vestibule dallé, aux hautes murailles nues, faiblement éclairées, où se tenaient deux hommes masqués, la dague nue à la ceinture. « Où suis-je ? Où suis-je ? » palpita la jeune fille. « Voici la petite que moi, Belgodère, devais amener ici. »« C'est bien ici, » fit le bohémien. « C'est ici, » dit l'un des deux gardes. Au même instant, cet homme jeta sur la tête de Violetta un sac de toile noire qu'il serra au cou par un cordon. Sans un cri, sans un souffle, paralysée par une de ces terreurs extraordinaires comme on n'en a que dans certains hideux cauchemars, Violetta se sentit soulevée, entraînée, emportée, elle ne savait où. L'autre géant masqué tendit à Belgodère une bourse bien gonflée. « Voici les 100 ducadors que tu as demandés. »« Ce n'est pas moi qui les ai demandés, » grommela le sacripant. « C'est Monseigneur le Duc qui m'a dit la chose. 10 bourses contenant chacune 10 ducats. » « Monseigneur le Duc, » demanda l'homme avec étonnement, « tu veux dire le prince ?»« Duc, prince, si vous voulez, peu importe, l'essentiel est que ma besogne est faite. »« C'est vraiment l'essentiel, prends ton or et file. »« Un instant, l'ami, si tu veux avoir la langue arrachée, si tu veux être écorché vif, tu n'as qu'à souffler à âme qui vive un mot de ce que tu viens de faire. »« Encore un conseil, tâche d'oublier si bien cette maison » que jamais on ne te voit rôder par ici. Et maintenant, au large. » Le bohémien s'inclina jusqu'à terre avec un sourire narquois et, sortant à reculons, s'évanouit dans la nuit. 10 heures sonnèrent à Notre-Dame. Belgodère avait disparu depuis longtemps. Ce fut à ce moment que Maître Claude, s'approchant à son tour de la terrible maison, heurta le marteau de bronze comme avait heurté le bohémien. Comme pour le bohémien, comme pour Violetta, la porte de fer s'ouvrit sans bruit. Après la victime, le bourreau. Sans doute les deux hommes masqués le reconnurent, car l'un d'eux, lui faisant signe de le suivre, se mit à le précéder dans l'intérieur de la maison. Et sans doute aussi, Maître Claude connaissait cet intérieur, car il ne manifesta aucun étonnement de ce qu'il voyait. Et pourtant, il y avait là de quoi stupéfier l'esprit et affoler l'imagination. Dès le vestibule franchi, cette maison hideuse, dont la façade branlée, dont les murs extérieurs poussiéreux, noircis et rongés par la lèpre des siècles, tombaient en ruine, oui, cette maison devenait un fabuleux palais de monarques asiatiques, une succession de pièces vastes et ornées avec une magnificence inouïe, aboutissant à une salle immense, au fond de laquelle, sous un dé, s'élevait un trône d'or, merveille de sculpture et de ciselure. Les plafonds de ces pièces peints à fresque, les hautes murailles couvertes d'étoiles du Primatis, de Tintoret, d'Annibal, Carrache, de Raphaël, du Corrège, de Véronèse, les dressoirs de chêne précieusement fouillés, les admirables tapisseries des fauteuils, les mosaïques prestigieuses des parquets, les somptueuses tentures, les panoplies d'armes étincelantes formaient un prodigieux ensemble d'un luxe écrasant, d'une beauté sévère, d'un goût très pur. Dans la salle du trône, 12 torchères en or massif, supportant chacune 12 flambeaux de cire rose, des colonnes alternativement de jaspe et de marbre, d'énormes vases de porphyre contenant de gigantesques bouquets aux fleurs radieuses, des tapisseries d'Arabie, 60 fauteuils aux dossiers très hauts, tous surmontés d'une tiare sculptée, tous portant une F brodée, sous laquelle se croisaient 2 clés symboliques, les statues de marbre entre les colonnes constituaient un décor fantastique, exorbitant, qui tenait du rêve et que semblait garder comme un trésor des 1001 nuits, 24 hommes d'armes vêtus d'acier, silencieux, immobiles, hallebardes au poing, 12 à gauche du trône, 12 à sa droite. Et ce décor, dans sa splendeur, gardait on ne savait quoi de menaçant et de formidable, comme s'il eût été fait pour quelque souveraine orientale, pour quelque antique impératrice, distribuant autour d'elle, selon son caprice, l'amour ou la mort. Le bourreau passa parmi ces merveilles sans un frémissement, suivant son conducteur muet. Il parvint ainsi de salle en salle jusqu'à une pièce qui devait se trouver aux confins de ce palais, vers la Seine, et faisait pendant au lugubre vestibule de l'entrée. Elle était nue, froide, humide, avec des murs en pierre grise, sans un meuble. Seulement, au long des murailles, il y avait des chaînes accrochées à des anneaux de fer, comme si d'une enchanteresse résidence de fées magiciennes, on fût soudain passé dans un cachot servant d'antichambre au condamné qui va marcher au supplice. Là se tenait une femme vêtue de noir, la tête couverte d'une mantille en dentelle noire. On ne voyait pas son visage, mais à sa main étincelait un anneau pareil à celui du prince Farnèse, avec les mêmes signes. Seulement, tandis que l'anneau du cardinal était en fer, celui qui brillait à cette main de femme était en or pur. Et les caractères du chaton étaient tracés par des diamants qui fulguraient dans la pénombre. Cette femme, c'était celle-là même que nous avons entrevue place de Grève, c'était celle que Farnèse avait appelée Sainteté, c'était Fausta. Du premier coup, les yeux de Claude se portèrent sur l'anneau, comme s'il l'eût avidement cherché. Alors il frissonna et tomba à genoux en murmurant « La souveraine !» Et, tremblant d'une terreur mêlée de vénération, il se prosterna, courba le front jusqu'à lui faire toucher les dalles. De cette voix qui berçait comme une mélodie d'amour et suscitait l'effroi comme le verbe d'un archange exterminateur, Fausta prononça avec une étrange et glaciale solennité. « Bourreau, nous, grande prêtresse de l'ordre auquel vous avez juré obéissance, avons jugé et condamné à mort une créature humaine de qui la vie était une menace pour les projets sacrés dont nous sommes la dépositaire. Bourreau, vous avez accepté d'être l'exécuteur de secrètes sentences qui ne relèvent que de la divine justice. Entrez donc dans la chambre des exécutions où la condamnée attend et accomplissez votre œuvre. » Claude releva le front et tendit ses mains vers Fausta. « Vous avez à nous parler ? Nous vous le permettons, » dit Fausta. « Souveraine, » dit Claude avec un tremblement convulsif, « moi, chétif et humble, j'ose adresser une supplique à l'éblouissante majesté au pied de laquelle je me prosterne. Parlez, bourreau, nous sommes sur cette terre pour punir, mais aussi pour consoler. » Consoler, oui, c'est de consolation dont j'ai besoin. Mes nuits sans sommeil sont peuplées de spectres. Le vent qui passe m'apporte les larmes et les malédictions de ceux que j'ai tués. En vain, je me crie que je fus seulement un instrument de la justice humaine. En vain, j'implore de Dieu Tout-Puissant de rendre un peu d'apaisement à mon cœur. Je vois la mort avec une inexprimable terreur, sans quoi je me fusse tué. J'ai peur, souveraine, j'ai peur de mourir sans cette absolution suprême qui me fut promise par votre envoyé. Depuis 2 ans que j'ai juré obéissance, par 3 fois j'ai dû venir ici exercer mon terrible ministère. Et la Seine n'a redit à personne le secret des 3 cadavres que je lui ai jetés. Un effroyable sanglot râla dans la gorge de Claude, et cette figure monstrueuse parut bouleversée par toutes les affres d'une superstition délirante. Il frappa son vaste front sur les dalles, et avec un désespoir insensé, « J'ai consulté 20 docteurs, reprit-il, et en apprenant qui j'étais, aucun n'a voulu me répondre. J'ai imploré la pitié de plus de 100 prêtres, et aucun n'a voulu tracer sur ma tête le signe rédempteur qui m'eût rendu le repos. À votre envoyé, souveraine, j'ai refusé l'or qu'il m'offrait. Mais lorsqu'il m'a promis la sainte absolution, j'ai signé le pacte. Par 3 fois, dis-je, j'ai obéi, souveraine. Maintenant, je ne peux plus. L'horreur me submerge et je vois s'ouvrir devant moi les effroyables mystères de la damnation éternelle. Souveraine, ayez pitié de moi. » Vous avez bien fait de m'ouvrir votre âme, dit Fausta d'un accent de douceur pénétrante. Bourreau, l'épreuve est terminée. Allez demain dans Notre-Dame. Après la messe, vous serez entendu en confession générale, non pas par un simple prêtre, mais par un prince de l'Église muni, à votre seule intention, de plein pouvoir de sa sainteté. C'est donc sa sainteté elle-même qui répandra sur votre front le trésor des indulgences qui feront de vous un homme semblable aux autres, vous rendront le sommeil, écarteront de votre esprit les terreurs infernales et vous berceront dans la sérénité des apaisements paradisiaques. » Et d'une voix de commandement suprême, tandis que son bras tendu désignait une porte, elle ajouta « Maintenant, bourreau, va, éteins cette vie encore. À ce prix, demain, tu seras absous de tous tes meurtres et délivré de tous tes spectres. » Claude se releva d'un bond, le visage resplendissant d'une épouvantable extase. Un changement terrible dans sa soudaineté se fit sur cette physionomie où domine une implacable et sauvage résolution. « Vous dites, gronda-t-il, que je serai absous de tout mon passé ?»« Tu seras absous. » »« Et que cette exécution est la dernière, qu'après cette femme, je ne tuerai plus personne ?»« Cette femme sera ta dernière victime. » »« Qu'elle meure donc !» rugit maître Claude en se dirigeant vers la chambre des exécutions. C'était un homme qui s'était prosterné aux pieds de Faustin, celui qui marchait maintenant vers la porte qu'on lui avait désignée d'un pas rude de fauve, c'était le bourreau. Il entra brusquement, refermant la porte derrière lui. Alors Faustin s'approcha, colla son visage à un invisible treillis et regarda ce qui allait se passer dans la chambre des exécutions. C'était une large pièce qui, greffée sur les murs de la maison, était suspendue au-dessus de la scène. Il n'y avait pas de fenêtre. La lampe suspendue au plafond très élevé, au lieu d'éclairer, ne faisait qu'accentuer les ténèbres et, pour ainsi dire, donner un relief aux ombres entassées dans cet antre. Les parois étaient en bois mal équarri, de même le plancher. Seulement, au milieu de ce plancher, apparaissaient les rainures d'une trappe fermée. Il y avait un anneau à cette trappe. Une corde y était adaptée. Elle montait droit au plafond, puis par un système de poulies, descendait le long d'une paroi où elle était fixée à un gros clou par un nœud. Il n'y avait qu'à défaire ce nœud, la corde glissait dans ses poulies et le couvercle de la trappe, n'étant pas soutenu par elle, s'abaissait, retombait. Quiconque se trouvait alors sur ce couvercle était précipité. En bas, la Seine coulait avec de sourdes lamentations, des froissements d'eau qui ressemblaient à des plaintes, des clapotis qui étaient pareils à des malédictions. Le bourreau, en entrant, saisit un paquet de cordes. Il s'agissait de lier la victime, de l'étrangler d'un coup sec, puis de pousser le cadavre sur la trappe et de laisser retomber le couvercle. C'était là sa besogne. En entrant, le bourreau aperçut, au milieu de la salle, dans la livide clarté diffuse, celle qu'il allait tuer. Elle était étendue sur le plancher, évanouie de terreur sans doute. Sa tête, enveloppée d'un sac noir, touchait au couvercle même de la trappe. Elle ne bougeait pas. Peut-être ne respirait-elle plus. Le bourreau eut comme un geste de déception ou de honte, sa résolution tomba. « Qui est cette malheureuse » murmura-t-il. « Qu'a-t-elle fait? Pourquoi faut-il qu'elle meure? C'est moi qui vais la tuer !» Il frissonna longuement. Aux trois exécutions précédentes, c'étaient des hommes, et la lutte, l'effroyable lutte, réveillait en lui les instincts du carnassier, du fauve qui ne pardonne pas, mais là, une femme, jeune, belle peut-être, innocente, qui savait ? Une malheureuse créature qui n'était même pas besoin de tuer, qui se livrait, la tête déjà sur la trappe fatale, comme s'il n'y eût qu'à la pousser dans la mort. Claude détourna la tête, ses yeux vacillèrent de pitié. Non, jamais il n'aurait le courage de porter la main sur sa dernière victime. Il se dirigea vers le clou auquel était accrochée la corde qui soutenait la trappe. Mais pour y aller, il fit un long détour, rasa les parois de bois sans regarder la victime. Il marchait, courbé, sur la pointe des pieds, haletant, formidable et pitoyable. La sueur coulait à grosses gouttes sur son visage. Et ce fut ainsi qu'il atteignit la corde. Sans oser se retourner, il porta une main tremblante sur le nœud qu'il commença à défaire. À ce moment, la condamnée, la victime, poussa un soupir qui résonna dans la tête du bourreau comme la clameur des trompettes du jugement dernier. Il eut un violent recul en arrière et il demeura immobile, ramassé sur lui-même, écoutant, luttant contre cette pensée épouvantable. « Elle se réveille. Il faut que je la tue avant de la précipiter. Elle pourrait se sauver. » Il ajouta en grelottant. « Et puis, elle souffrirait trop si elle se noyait tout de même. Je dois tuer, non faire souffrir. » Alors il se retourna avec un rauque grondement, une violence par quoi il cherchait à s'exciter, bondit jusqu'à la condamnée et s'agenouilla, ou plutôt s'accroupit près d'elle, disposant les cordelettes de l'étranglement. « Il faut qu'elle meure, » grogna-t-il. « Je dois agir, encore celle-là. » La victime fit un mouvement. Des paroles à peine bégayées parvinrent jusqu'à l'oreille du bourreau. « Adieu, mère, ma mère chérie. Père, père, où es-tu ? » « Elle appelle sa mère, » haleta le bourreau livide d'angoisse. « Elle appelle son père. Comme sa voix est douce et triste, et comme elle me remue le cœur. » Une irrésistible curiosité s'emparait de lui. Voir, oh, voir le visage de cette victime, de cet enfant étrangement vêtu comme une bohémienne. Oui, la voir, lire peut-être sur sa figure le crime qui l'a condamné. Il résistait encore à la tentation que déjà ses doigts avaient délié le cordon qui maintenait le sac noir autour du cou. Déjà il soulevait l'étoffe, déjà lui apparaissait l'adorable visage, les paupières closes sous les longs cils, le front pur et la radieuse chevelure de Violetta. Il la contempla une longue minute avec un indicible effarement devant cette parfaite harmonie de grâce, d'innocence et de beauté. « Qu'elle est belle !» fit-il dans un souffle rauque. « Et elle va mourir !» Il devint pensif. Peu à peu, il oubliait ce qu'il faisait là et pourquoi il y était. Puis, à force de la regarder, il sentit tout à coup comme un battement sourd et profond de son cœur, quelque chose qui pleurait et riait en lui, une joie délirante et une douleur prodigieuse, un bouleversement de son âme qui, si les âmes ont des yeux, fermait ses yeux, ébloui par un jet d'aveuglante et surhumaine clarté. « Ah, ça ! » gronda-t-il en saisissant sa crinière de ses deux mains crispées. « Mais je deviens fou, moi ! Que vais-je imaginer là ? Seigneur Dieu, est-ce le châtiment suprême ? Vais-je sombrer dans la folie ? Ce visage, oh, ce visage, il me rappelle... Non, c'est insensé ! L'enfant aurait cet âge-là ? Elle aurait cette figure-là ? » Il eut un sanglot et un éclat de rire. Ce sont bien ses cheveux, tout de même, ses beaux cheveux d'or. Il n'y a pas à dire. C'est sa bouche. Oh, si je pouvais voir ses yeux !» Le sanglot devint un rugissement et le rire un râle. « Si c'était elle !»« Ma fille !» hurla-t-il dans un cri terrible en secouant la victime. « Ma fille ! Mon enfant ! Violetta ! Violetta !» Violetta ouvrit les yeux, les posa, timides et craintifs, sur le bourreau. Ce fut une seconde indescriptible où l'on n'eût pu entendre que le souffle tragique du colosse agenouillé. Les yeux de l'enfant soudain s'emplirent de lumière. Elle tendit vaguement les bras, comme jadis, au pied du gibet et, avec un infini ravissement, murmura « Mon père, mon bon petit papa Claude !» Claude jeta une déchirante clameur qui fit trembler les parois de la chambre. « Seigneur Dieu, c'est elle, c'est mon enfant !» Il se redressa et recula, comme si la joie furieuse et le doute encore l'eussent enveloppé d'un tourbillon. Ses mains énormes, secouées d'un tremblement convulsif, se tendaient vers elle, puis se reculaient vivement. Il n'osait la toucher. Il riait et pleurait, et il grommelait « Comment ? C'est mon enfant ! Je ne suis pas fou !» « Oh, est-ce bien toi ?» L'enfant sourit divinement. « C'est moi, père, c'est moi !» Puis il se rapprocha tout d'un coup. Alors, avec une sorte de rudesse, il empoigna la jeune fille dans ses bras puissants, la souleva comme une plume, l'emporta dans l'angle le plus éloigné de la trappe fatale, s'assit sur le plancher et la mit sur ses genoux. Il pleurait à grosses larmes. Ses lèvres barbouillées de pleurs, tremblotantes, bégayaient des choses incompréhensibles, et il y avait sur son visage monstrueux une irradiation de bonheur inouï, de prodigieux étonnement et de suprême extase. Violetta souriait et répétait « Mon père, mon bon père Claude, c'est vous, c'est bien vous, mon père !» Et quand elle put comprendre quelques mots de ce qu'il balbutiait, elle l'entendit qui disait « Oui, c'est ça, appelle-moi encore ainsi, encore, que j'entende ta voix. Comme tu es belle, mets-moi ton bras autour du cou, tu sais bien. Ah ça, que s'est-il passé? Non, tais-toi, tu me diras ça plus tard. Dire que c'est toi, je ne rêve pas, dis, c'est toi, ce sont bien toujours tes chers yeux, tes beaux cheveux. Mon enfant, ma vie, ma Violetta. Dire que ce que je tiens là dans mes bras, c'est mon enfant. » Il sanglotait, ses énormes épaules toutes secouées. Il oubliait le monde, le lieu où il se trouvait et pourquoi il y était, et ce qu'il était venu faire. « Ah, ça !» fit-il en riant avec délice. « Rentrons chez nous. Comprends-tu cela? Chez nous ?»« Dans notre bonne petite maison de Meudon. » « Non, c'est-à-dire, si fait, c'est là. Que diable faisons-nous ici? Viens, rentrons. »« Ici ?» murmura Violetta, reprise par un frisson d'épouvante. « Oh, père, qu'est-ce donc ici ?»« Ici ?» Claude jeta ce mot comme une clameur d'enfer. Son visage se convulsa. Ses regards eurent des lueurs de folie. Il répéta en grelottant « Ici ? Nous sommes ici !»« Père, père, quelle horrible angoisse vous saisit ! Oh, j'ai peur ! Qu'est-ce donc cette maison ?»« Ce que c'est ?» gronda Claude qui tressaillit, passa une main sur son front et jeta autour de lui des yeux hagards. « Ce que c'est ? Oh, je me souviens ! Damnation ! Fuyons, vite, fuyons !» Il se releva d'un bond, saisit par un bras la jeune fille terrifiée par cette expression d'horreur qui éclatait soudain dans la voix de son père. À ce moment, la porte s'ouvrit. Faust apparut voilée de noir. Fausta fixa sur Violetta un regard d'ardente curiosité. « C'est donc là, murmura-t-elle, l'enfant que recueillit le bourreau. C'est donc la fille de Farnèse. Nouvelle raison, plus puissante encore pour qu'elle disparaisse, qu'elle meure. » Claude s'était arrêté pétrifié. Fausta étendit les bras et dit avec une funèbre simplicité « Qu'attendez-vous ? » Claude eut un recul de bête sauvage à l'instant de l'égorgement. Un soupir de damné s'exhala de sa vaste poitrine. Violetta, tremblante, fixait un regard éperdu sur cette femme vêtue de noir qui parlait si étrangement à son père. Fausta, de sa même voix affreusement simple, répéta « Qu'attendez-vous ?» Alors Claude frémit. D'un geste violent, il repoussa derrière lui Violetta comme pour une protection suprême. Puis il joignit ses mains énormes et, la tête perdue, balbutia d'une voix très basse. « Mon enfant, madame, c'est mon enfant, ma fille. Figurez-vous que je l'avais perdue et je la retrouve ici. Figurez-vous que vous avez perdu le paradis et que vous le retrouvez dans l'enfer. Vous ne voudriez pas, n'est-ce pas? Maintenant que vous savez, allons, laissez-nous passer. » « Maître Claude, dit Fausta, qu'attendez-vous pour faire votre besogne ? Bourreau, qu'attends-tu pour exécuter la condamnée ?» À ce mot de bourreau, Violetta regarda la femme noire avec stupeur, puis son père avec épouvante. Et un cri d'angoisse et d'horreur jaillit de sa gorge, tandis qu'elle reculait en cachant son visage dans ses mains. « Mon père ! Bourreau ! Mon père est bourreau ! » Claude entendit ce cri, et son visage devint couleur de cendre, et il se replia, se tassa, les épaules basses, la tête tombée sur le poitrail, avec des soupirs affreusement tristes. Alors il se tourna vers la jeune fille. Une sublime expression de désespoir s'étendit sur sa physionomie, et d'un accent indiciblement navré, avec une immense lassitude de résignation, « Ne t'effraie pas, je ne te toucherai plus si tu veux, je ne te parlerai plus, je ne t'appellerai plus ma fille. Mais ne t'effraie pas, allons, tu peux bien encore faire cela pour moi. Je t'en supplie, n'aie pas peur. » « Madame, gronda-t-il soudain en se retournant vers Fausta, vous venez de commettre un crime. Vous avez brisé le lien d'affection qui rattachait cet enfant à l'infortuné que je suis. Or, je vous le dis en face, ceci est une chose abominable que d'avoir révélé mon ignominie au seul être qui m'est aimé en ce monde. Et je vous le déclare, prenez garde maintenant. » Prends garde toi-même, bourreau, interrompit Fausta sans colère, pareil à la fatalité qui tue parce que c'est sa fonction de tuer. Finissons vite. Es-tu en rébellion? Obéis-tu? Obéir? Ah, ça, vous ne comprenez donc pas? Ma fille, je vous dis que c'est ma fille. Ne crains rien, ma petite Violetta, ne crains rien, va. Je dis que tu es ma fille, mais je ne t'importunerai pas. Tout ce qu'il faut, c'est que tu vives. Sortons d'ici. Bourreau, dit Fausta d'une voix éclatante, choisis de mourir avec elle ou d'obéir. Obéir, moi? Hurla Claude d'un accent sauvage. Assassiner ma fille, moi? Vous êtes folle, ma souveraine. Place, place par l'enfer où ta dernière heure est venue. De son bras gauche, il entoura la taille de Violetta qu'il souleva, qu'il emporta. Et, levant son bras droit, balançant dans l'espace son poing formidable, flamboyant, il marcha sur Fausta. Fausta vit venir sur elle l'homme, effroyable, pareil à quelque fauve des forêts. Elle ne recula pas, ne fit pas un mouvement de défense, mais d'un sifflet qu'elle portait à la ceinture, elle tira un son bref et aigu. À l'instant même, 15 gardes armés d'arquebuses firent irruption dans la funèbre salle et se rangèrent sur une seule ligne devant Fausta. Cette manœuvre s'était accomplie avec une foudroyante rapidité. Claude, portant Violetta à demi évanouie dans ses bras, recula en grondant, montrant les dents comme un dogue furieux. Il s'accula à la paroi du fond, darda des yeux sanglants sur les gardes et grogna quelques sons incompréhensibles qui sans doute signifiaient « Venez-y donc, touchez-la si vous osez !» Mais les gardiens n'avançaient pas. Sans doute Fausta leur avait donné ses ordres avant d'entrer. Ils n'avançaient pas. Mais Claude les vit apprêter leurs armes. « Comment? Comment? Ils vont arquebuser ma fille » bégaya-t-il. Les cheveux hérissés, le regard fou, les veines du front gonflées à éclater, il sentait craquer son cerveau, il entendait son cœur se briser, ses muscles se tordre et ses nerfs pleurer. Dans une effrayante tension d'esprit, il cherchait encore à cette minute définitive le moyen de sauver Violetta. Attention ! Commanda une voix rude. À cet instant, les 15 gardes entendirent un hurlement qui se termina par un éclat de rire de tempête. Ils virent une ombre géante qui bondissait d'un bond prodigieux. Dans la même seconde, ils firent feu. Le tonnerre des 15 arquebuses éclata. La sinistre chambre s'emplit d'une fumée noire, et les gardes alors sortirent. Fausta demeura seule, immobile, un mystérieux sourire aux lèvres. Lentement, les volutes de fumée se dissipèrent. Alors, elle chercha les cadavres de Claude et de Violetta, du bourreau et de la condamnée. Et elle ne les vit pas. Violetta et Claude avaient disparu. Les yeux de Fausta errèrent, fouillèrent les coins sombres, et enfin s'arrêtèrent sur la trappe au milieu de la pièce. La trappe était ouverte. Il y avait là comme l'ouverture béante d'un puits au fond duquel la scène se lamentait. Fausta eut un imperceptible tressaillement. Elle venait de comprendre ce cri et cet éclat de rire sauvage et ce bondissement furieux de Claude. Fausta s'approcha de la trappe, se pencha, écouta et demeura là, inclinée sur ce gouffre noir, au fond duquel, sans doute, tournoyaient maintenant les deux cadavres enlacés. Et ce gouffre était moins noir, moins terrible que le gouffre de ses pensées.